bienvenue dans Histoire de savoir sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Bienvenue dans Europolis, Thomas Gesseling ce micro. Aujourd'hui, on va parler d'un premier roman, La fille de Nino, de Gabriel Boril, qui nous offre une histoire personnelle sur l'immigration italienne. Angela est une jeune femme dont la mère est morte quand elle était adolescente. Et alors qu'elle-même se cherche, entre des études de droit, une vocation journalistique et une émigration à Bruxelles en venant de la région de Charleroi, la voilà rappelée au chevet de son père, ouvrier métallurgique tombé dans le coma à la suite d'un accident de travail. Histoire personnelle donc, histoire sociale aussi se mêle dans ce roman qui parle de retour en arrière sur un passé d'immigration et sur le combat au présent pour reconnaître un accident du travail. Pour nous en parler aujourd'hui, l'auteur de ce roman, donc je vous rappelle le titre, La fille de Nino, publié aux éditions Weyrich dans la collection Plume du Coq. Il s'agit de Gabrielle Boril, elle est donc romancière, elle a été scénariste et professeure de scénario à l'Université libre de Bruxelles et à l'IAD. Elle a aussi été auteure de BD, de séries et télé et de cinéma. Et elle a fait des études de droit et de journalisme à l'Université libre de Bruxelles. Et donc elle vient nous présenter son premier roman, La fille de Nino, publié aux éditions Weyrich dans la collection Plume du Coq. Gabriel Boril, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en studio pour nous parler de La fille de Nino. La fille de Nino, c'est un roman, votre premier roman, qui est publié aux éditions Weyrich dans la collection Plume du Coq. C'est une histoire relativement personnelle sur fond d'immigration italienne, même si on est dans les années 80 et que l'immigration est évidemment plus ancienne que ça. Mais tout ça, on va le détailler dans un instant. La fille de Nino, c'est pas vous, encore que. On parle d'un personnage qui s'appelle Angela. Alors vous, pour vous présenter en quelques mots, Gabriel Boril, vous êtes scénariste. Vous avez été professeur de scénario à l'Université libre de Bruxelles et à l'IAD, l'Institut des arts de diffusion à Louvain-la-Neuve. Vous êtes auteur, ou vous avez été auteur de BD et de séries télé et de cinéma, diplômé en droit et en journalisme de l'Université libre de Bruxelles. C'est tout juste ?
Alors, il se fait que diplômé est un grand mot parce que quand je me suis inscrite en journalisme, les candidatures n'existaient pas. Vous vous rendez compte, on est dans la préhistoire. Et donc, j'ai fait mes candidats en droit et mes licences en journalisme. À l'époque, on appelait ça les licences.
D'accord. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était le master et le bachelier.
Voilà, à l'époque, c'était 4 ans seulement d'études. Et voilà. Mais donc, alors, ce qui est drôle, c'est que c'est déformé dans toutes les biographies qui circulent. On dit diplômé. Je n'ai pas fait des études de droit pendant 5 ans. Non.
Voilà, comme ça, la réalité est rectifiée. Il n'en demeure pas moins que vous avez étudié le droit et le journalisme. Ça, on peut le dire. Alors, le pitch de La fille de Nino. Le voici. Angela est une jeune femme dont la mère est morte quand elle était adolescente. Et alors qu'elle-même se cherche entre des études de droit, tiens, et une vocation journalistique. Et puis aussi une émigration à Bruxelles venant de la région de Charleroi. La voilà rappelée au chevet de son père, ouvrier métallurgiste tombé dans le coma à la suite d'un accident de travail. Mais ça, on va en reparler parce que justement, c'est une des intrigues qui émaille ce roman, La fille de Nino, c'est de savoir s'il s'agit d'un accident ou d'un problème de santé. Mais on y reviendra. Une histoire personnelle et sociale, donc. Gabriel Boril se mêle dans ce roman que vous avez écrit qui parle de retour en arrière sur un passé d'immigration, mais aussi au présent sur le combat, donc pour reconnaître cette question de l'accident du travail. Et puis une histoire sentimentale en filigrane, assez chahutée. Selon vous, Gabriel Boril, quel est le véritable fil rouge de ce roman ?
Le véritable fil rouge, j'ai l'impression de l'avoir découvert en l'écrivant, c'est assez fou. Bon, ben, ça part bien sûr d'un événement dramatique qui est l'entrée dans le coma de mon père d'ailleurs. Hein. Donc c'était un moment affreux, donc qui m'est resté en mémoire. Et j'ai commencé sur ça, et puis en écrivant, je me suis rendu compte que ce qu'Angela vit, c'est-à-dire une relation d'emprise. Pendant pas mal d'années, est liée probablement un peu à son éducation, c'est-à-dire, au fond, cette jeune femme, Angela, a des parents immigrés qui sont vraiment, enfin surtout la mère, elle est dévorée par le besoin de s'intégrer, absolument. Ce désir d'intégration qu'elle transmet à sa fille par des injonctions quand même assez contraignantes, hein, eh bien, quand Angela va avoir 20 ans...
L'injonction de la réussite à l'école, par exemple.
Oui, voilà. Et ce qui est fou, c'est... Vous savez, ce que je trouve incroyable, c'est que les enfants se soumettent au désir des parents, pas tous, hein, y en a qui sont des rebelles, bien sûr, mais enfin, Angela, pour le coup, n'est visiblement pas une rebelle, et elle se soumet sans souffrance, en fait, sans souffrance, et elle va être première de classe jusqu'à ses 16 ans, qui est évidemment le moment où sa mère décède. Donc, c'est presque un indice tellement clair qu'elle était première de classe parce que maman le voulait, quoi. Il y a quelque chose de terrible dans... Bon, en même temps, sans doute que ça l'a peut-être aidé dans sa vie, mais en tout cas, ce qui est... ce que j'ai l'impression d'avoir découvert dans le roman, c'est qu'Angela, parce qu'elle a une mère, elle a eu une mère avec cette obligation de s'intégrer, de monter de classe sociale, etc., Angela va devenir la victime d'un homme qui, comment dire, elle rentre dans une relation d'emprise qui n'est même pas douloureuse, hein, mais elle rentre dans un couple pendant 6 années. Alors qu'au fond, elle n'est pas amoureuse de cet homme-là, mais simplement, cet homme représente tout ce que la mère aurait aimé avoir pour sa fille, c'est-à-dire une classe sociale supérieure, un bourgeois, grosse bourgeoisie, la culture, hein, y a des livres chez cet homme. Voilà. Donc, c'est peut-être la chose, le fil rouge, entre guillemets, de ce roman, c'est ça. On découvre le père, hein, c'est vraiment le point de départ qui a cet accident dans l'usine. C'était Hénau Sambre, à Charleroi. Et... elle va aller à son chevet et elle retombe dans le passé, les souvenirs, etc. Parce qu'elle reçoit aussi, bien sûr, des confidences de la famille. Parce que cette pauvre Angela, elle ne connaît pas grand-chose, hein, du passé de son père. Donc voilà, c'est comme une sorte d'enquête sur son père, mais aussi sur elle-même. Et alors, justement, alors que le père est dans le coma, l'ex-compagnon dont elle avait réussi à se libérer refait surface. Je ne dis pas que c'est un suspense, mais quand même, je ne vais pas vous donner la réponse maintenant, mais est-ce qu'on se dit, mais elle ne va pas retomber dans les pattes de cet homme-là, quand même? Eh bien, on verra.
Histoire croisée, parce qu'il y a aussi un rapport avec une ancienne fiancée du père,
oui,
qui ressurgit aussi, alors qu'elle était déjà là, oui, plutôt après la mort, oui, de la femme. Mais bref, oui, voilà, donc des, oui, histoires qui se mêlent
qui
et qui se croisent. Oui. Alors, vous l'avez dit, on l'a dit, l'héroïne s'appelle Angela.
Oui.
La mère, elle s'appelle Adèle.
Oui.
Mais en fait, elle s'appelle Adela.
Oui.
Et peut-être qu'Angela, peut-être que la mère aurait voulu qu'elle s'appelle Angèle.
Oui.
Et peut-être que vous, Gabriel Boril, vous pourriez vous appeler Gabriella Borilla.
Mon vrai nom, c'est Gabriella Borille.
Borille.
Et son nom italien.
Si. Alors, il y a cette question derrière, que vous l'avez déjà... vaguement évoqué, Gabriel Boril, vous permettrez que je vous rappelle, oui, de manière francophone, que vous appelez de manière francophone, Gabriel Boril. Il y a aussi cette question de l'ascenseur social. Difficile à prendre quand on vient de conditions modestes. Et pourtant, à l'heure où se déroule ce roman, La fille de Nino, on l'a dit tout à l'heure, c'est dans les années 80, hein,
oui,
on parle de Diane, de deux chevaux, en fait, ce genre de choses, donc on s'oriente bien dans ces années-là. On n'en est plus vraiment totalement pancarte, comme on pouvait voir sur les devantures de bistrot de certains magasins, interdit aux chiens, aux Italiens.
Oui.
Pourtant, cette question du racisme, ou cette difficulté de s'intégrer, elle est bien présente.
Oui, tout à fait. C'est vrai que quand elle était petite, on va dire, Angela, dans les années 60, effectivement, c'était pas génial d'être un macaroni, entre guillemets. Là, elle a 26 ans. Et pourquoi est-ce qu'elle est mal dans sa peau? On pourrait se demander pourquoi elle est mal dans sa peau. Pourquoi, alors qu'elle a fait des études de journalisme, pourquoi elle ne trouve pas sa place? Et au fond, c'est un malaise, je crois, que vivent beaucoup de jeunes, soyons honnêtes. Là, en l'occurrence, c'est cette jeune fille, elle a un passé pas évident. Hein, le père ouvrier italien immigré et la maman en plus malade de la sclérose en plaques, ça n'aide pas. Mais je crois, je crois que beaucoup de jeunes de 20, 25 ans, malgré des études, c'est pas évident de vivre qu'est-ce que c'est mon avenir, etc. Et au fond... c'est marrant parce que j'ai déjà des échos de lectrices, justement, qui sont venues des Ardennes ou de Liège, enfin, et qui se retrouvent à Bruxelles. Ben, c'est pas évident. Quand vous connaissez personne, quand vous arrivez dans des... J'ai une amie, par exemple, qui s'est retrouvée dans une communauté avec des fils de bourgeois, quoi... Un peu comme Angela. Angela, elle se retrouve avec des gens qui font du théâtre, qui sont journalistes. Il y en a même un qui est écrivain, etc. Et ben c'est ça. C'est marrant parce qu'on appelle ça immigrés de l'intérieur. Les gens qui ont honte de leurs origines, c'est pas évident de prendre la parole dans un groupe. Je pense qu'Angela n'est pas la seule à vivre ce décalage social.
On parle avec Gabriel Boril de La fille de Nino. Est-ce que vous considérez ça comme un roman ou quelque chose qui s'apparente à un essai biographique? Je suis obligé de vous poser la question.
Oui, je comprends. Soyons honnêtes, il y a beaucoup de choses vécues, bien sûr. Mais c'est un roman. C'est vraiment important de dire que c'est un roman parce qu'il y a énormément de choses qui ont été vécues, mais qui étaient vraiment des petites émotions, des petits souvenirs, quoi. C'est des souvenirs très fugaces que j'ai voulu mettre en scène, voilà, parce que j'aime bien quand même que cette histoire touche et qu'elle... qu'elle puisse émouvoir le lecteur. Donc, mais d'autant plus que on en parlera après, je viens du scénario, donc je viens de la fiction complètement. J'ai passé 30 ans à écrire de la fiction. Donc c'est un cadeau que je me fais à moi, pour une fois.
Un gelato al limon, gelato al limon, gelato al limon. Sprofondati in fondo a una città, un gelato al limone, è vero limone, ti piace? Mentre un'altra estate se ne va, libertà e berline colorate. Ecco quello che io ti darò. E la sensualità delle vite disperate. Ecco il dono che io ti farò. Donna che stai entrando nella mia vita. Con una valigia di perplessità. Ah, non avere paura che sia già finito. Ancora tante cose quest'uomo ti darà. E un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone. Profondati in fondo a una città, un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone, mentre un'altra estate passerà. Ti offro una doccia e bagni di urto. che sono degli abissi di tiepidità. Dove come oceani notturni rimbombano le voci della tua città. E ti offro la luna del pomeriggio per il sogno arabo che ami tu. È una stretta forte della mia mano per te, donna, che non mi scappi più. E un gelato al limone, gelato al limone, gelato. L'intelligenza degli elettricisti, così almeno un po' di luce avrà la nostra stanza negli alberghi tristi, dove la notte calda ci scioglierà. Gelato al limone, gelato al limone, come gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone, come gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone, come gelato.
La fille de Nino de Gabriel Boril, publiée aux éditions Weyrich. La couverture représente un crépuscule avec ce que j'apparente hein, à un endroit où on de mine.
Oui, c'est ça. Un chevalement. Chevalement.
Ben, merci, comme ça j'aurais appris un mot supplémentaire, un chevalement. Donc en tout cas, ce qui permet de descendre dans les entrailles de la terre pour aller remonter le précieux minerai.
Oui.
C'est pas par hasard, évidemment, hein, vous qui avez réalisé, donc, Gabriel Boril, une carrière intellectuelle. Qu'est-ce qui vous ramène à parler du travail à la mine et, ou en usine?
Ah.
Je veux bien vous lire un extrait de votre roman qui dit ceci. La visite de l'usine n'a servi à rien, parce qu'ils essaient de déterminer la question de l'accident du travail. Personne ne veut reconnaître qu'il s'agit d'un accident professionnel. Ils disent que la chute est due à un problème de santé. Et peu importe que ce soit arrivé sur les lieux du travail, les patrons sont de mauvaise foi.
Oui. Bah, ça, c'est là. En fait, elle est allée après l'accident, quand son père s'est retrouvé dans le coma. Deux jours après, Angela va à l'usine avec son oncle, donc le frère de son père. Et elle va à l'usine, bah, elle va découvrir déjà, c'est assez horrible de découvrir cet endroit, c'est terrible, hein, le chahut, le vacarme que cette usine fait. Elle découvre le métier de son père.
Qu'elle ne connaît pas.
Qu'elle ne connaissait pas. Il lui avait quand même dit plusieurs fois voilà, qu'il était pocheur, mais elle ne comprenait pas bien ce que c'était. Là, vraiment, elle découvre. Mais son oncle est un ancien syndicaliste. Alors, il est très batailleur et il a l'impression, ça s'est passé pendant son travail, à 5 heures du matin, comment ça se fait que l'usine dit que c'est un accident de santé? Voilà, Angela ne saura jamais. Et bah, elle trouve que elle-même y pense, parce que son père a eu déjà un accident dans le temps, un accident, la main qui avait été blessée par une chaîne. Alors là, pour le coup... il n'y aura pas de conclusion, parce que ça n'a jamais été reconnu comme accident du travail, plutôt comme un accident de santé, quoi.
Et alors, pourquoi avez-vous eu envie de revenir dans ces conditions du travail à l'usine, même si le père a été mineur dans un premier temps, temps de l'immigration italienne?
L'usine, c'est le... Comment dire, ça, c'est ce qu'Angela a connu. Parce qu'évidemment, la mine, vous savez, la mine, c'est donc le père Nino est arrivé, je dirais, dans les années, à la fin des années 40, hein, après-guerre. Donc, vous savez, le fameux contrat qui envoyait des Italiens à la mine. D'ailleurs, entre nous, je ne sais pas si je le dis dans le roman, à l'époque, les Belges ne voulaient plus aller dans les charbonnages, c'était trop dangereux.
Vous le dites dans le roman, je vous le rappelle, c'est moi qui viens de le lire.
Mais donc, je crois qu'il y avait un contrat sur 50 000 Italiens qui sont arrivés en Belgique. Et en échange, je crois que l'Italie recevait donc du charbon de la Belgique, qui était richissime déjà en ce temps-là. Enfin, non, je devrais dire encore en ce temps-là.
Davantage.
Où j'en étais. Ben oui, la mine, quand il a rencontré la maman d'Angela, il a changé de créneau, quoi. Parce que quand même, heureusement, il est resté, à mon avis, que les 3 ou 4, 5 années légales. Et puis, il est allé dans une usine. Et c'est cette usine que Angela connaît. Parce que, vous savez, à l'époque, donc on est dans les années 60, 70, les usines, la sidérurgie, c'était la coulée continue, ça s'appelle. Hein. C'est un truc incroyable. Ça n'arrêtait pas. Ça ne s'arrêtait jamais. Donc les gens se relayaient par ce qu'on appelait des pauses. Donc des pauses, par exemple, un ouvrier travaillait, enfin Nino, c'était son cas, hein. Nino travaillait de 6h du matin à 2h de l'après-midi pendant une semaine, puis la semaine suivante c'était de 2h de l'après-midi à 22h, et puis après de 22 à 6h, la nuit, c'est la nuit. Alors je ne crois pas que c'est idéal pour la santé des ouvriers, ça. Mmh. Et en plus, vous ajoutez à ça ce qu'on appelait à l'époque les 16h. Donc les gens travaillaient 16h, donc c'était... Super bien payé, j'imagine. Je n'ai pas d'infos sur la question, mais ça veut dire que quand vous commenciez à travailler à 6h du matin, vous quittiez votre usine à 22h, quoi. C'était l'époque de la sidérurgie.
Oui, ça c'est plus que du métro-boulot-dodo. Oui. Alors, Gabriel Boril, vous êtes scénariste, et on l'a dit, vous avez été professeur de scénario à l'ULB et à l'IAD. Écrire un scénario ou un roman, ça participe de la même démarche?
On peut quand même dire que c'est raconter une histoire. Donc moi, j'ai appris en scénario. Je vous dis, j'ai suivi une formation de 2 semaines à l'RTB avec Yves Lavandier. Je dois citer son nom parce que quand même... c'est un homme... il a écrit des chouettes bouquins pour ceux qui voudraient se lancer dans l'écriture. Je trouve que c'est... Il a écrit un bouquin qui s'appelle « La dramaturgie ». Alors, à l'époque, quand je l'ai connu, il n'avait même pas encore publié son bouquin, mais c'est en français. Et au fond, c'est là que j'ai découvert les règles dramaturgiques qui font qu'une histoire en cinéma et en télévision tient la route, quoi. C'est très technique, en fait. Vraiment, alors qu'un roman, dans un roman, mais même dans un roman qui est un peu autobiographique, j'ai évidemment exploité les règles que je connais. Mais en plus de ça, il y a quelque chose dans la littérature que vous ne trouvez pas dans le scénario, c'est l'intériorité des personnages, c'est-à-dire les souvenirs, le ressenti. Vous pouvez aller très très loin dans la quête d'empathie, quoi. C'est-à-dire qu'un lecteur attentif peut vraiment devenir le personnage en littérature, ce qui n'est pas tout à fait le cas. En cinéma, on va travailler autrement. On va créer une tension et une émotion qui fait qu'on ne peut pas s'arrêter de voir le film, quoi. C'est un peu différent.
Voilà le rapport à l'image extérieure ou intérieure, oui. En fonction du média auquel on est confronté. On parlait de l'ULB il y a un instant, on parlait de l'usine aussi. On va essayer peut-être de faire un peu le pont entre les deux. Je lis encore un extrait de votre roman « La fille de Nino, Gabriel Boril ». Ça dit ceci. « Angela était furieuse de percevoir l'extrême humilité de son père. Elle avait pourtant usé de diplomatie pour lui donner son avis, lui faire comprendre que les études universitaires n'étaient pas un gage d'intelligence, que certains sont nés avec la chance d'avoir de l'argent et des diplômes, mais qu'ils n'ont pas plus de mérite que lui qui a trimé toute sa vie. Agacée par cette déférence presque servile dont il faisait preuve devant le bourgeois, elle avait fini par être maladroite et catégorique. Ce type a fait des études, papa, ça ne l'empêche pas d'être très con. Vous qui avez fréquenté les deux milieux.
Mais bien sûr.
Qu'est-ce qu'on peut dire de l'intelligence?
Mais oui, mais c'est-à-dire que même d'autres gens, je me souviens d'une tante qui était admirative. Ah, tu as fait des études universitaires. Mais ça, franchement, c'est. Comment expliquer ça? Il y a des gens pour qui c'est très facile de faire des études et personnellement je trouve pas ça si difficile. Simplement, je crois qu'il y a vraiment des gens qui n'osent pas ou qui n'ont pas les moyens peut-être. Enfin, moi j'ai payé mes études, hein, alors le droit par exemple, je peux l'avouer. Je n'allais pas souvent au cours puisque je travaillais, je vendais des chaussures. Je vendais des vins mousseux façon champenoise, des démonstratrices.
Un peu comme Angela, si je puis me permettre.
Ben, exactement. payer ses études, il y a des gens qui ont peur. Ou alors, et ça j'en parle dans le roman, il y a des parents qui n'ont pas envie. Oh oui. J'avais une marraine, et j'en parle dans le roman. Elle est décédée, bien sûr. Et son fils, elle m'a dit clairement, mais j'ai pas envie qu'il fasse des grosses études. Après, il sera plus avec moi, quoi. C'est terrible, je trouvais ça terrible. Et c'est vrai que, d'une certaine façon, moi, en faisant des études universitaires, je me suis éloignée de mon père. Bon, j'y suis revenue après, mais un peu tard, à mon avis, mais bon. Il y a ce moment où vous basculez ailleurs, quoi. Mmh.
Bon, on n'a pas réglé la question de oui. Est-on plus intelligent si on va à l'université ou pas. Mais ça, je pense qu'on ne la réglera pas ici. Mais en tout cas, ça permet d'avoir un peu d'humilité, peut-être. Oui. Revenons à l'écriture. Écriture pour le roman ou pour l'écran, est-ce que c'est différent? On en a un peu parlé. Oui. Il y a des procédés cinématographiques dans votre roman. Je lis encore un extrait. Pendant que la tête de Nino retombait sur une enclume, la Diane, on est dans les années 80 donc, d'Angela s'encastrait mollement dans la voiture d'un conducteur dont elle a déjà oublié le visage. Seul le ralenti cinéma lui est resté en mémoire comme un événement intemporel imaginaire. Ça se rejoint, le cinéma et le roman.
Oui, tout à fait, oui. Oui, mais c'est vrai que c'est une image, mais en plus, je vais vous dire, je l'ai vraiment vécu, ça. C'est vraiment étrange, quand même. Je ne suis pas fascinée par le paranormal, mais je n'ai jamais compris comment... Je revenais de chez quelqu'un, il était 5 heures du matin, et j'ai vraiment eu, pas un accident grave, mais je n'ai pas vu qu'il y avait un mec arrêté au feu devant moi. Il n'y avait personne, il y avait juste un mec. Je suis rentrée dans sa voiture. Et après, quand je suis arrivée à Charleroi, j'ai compris que à 5 heures, c'était exactement le moment où mon père avait fait une chute. Mais bon, voilà, faut... Et donc, c'est vrai que cette espèce de parallèle horaire m'a marquée. Et l'image m'a... Voilà, mais restez.
Donc vous arrivez à faire des ralentis dans le roman comme au cinéma.
Ah oui, c'est possible, oui. Non, c'est vrai que des lecteurs m'ont dit que c'était très visuel. Alors là, si je peux faire une parenthèse,
bien sûr.
Je crois, c'est vraiment important. J'ai appris, au fond, en écrivant pour le cinéma et la télévision, qu'on n'a pas le droit d'ennuyer le spectateur. Sinon, ils zappent. Et donc, je suis quand même devenue une grande spécialiste de la tension dramatique, entre guillemets. Et en écrivant maintenant, j'essaye d'avoir une écriture fluide. C'est-à-dire, il y a des choses importantes à dire, qui ne sont pas faciles à lire, peut-être. Mais j'ai une écriture vraiment... comment dire? C'est pas proustien, quoi. Je ne sais pas si Emma non plus, bien sûr, puisque je vous ai dit que je rentre dans les personnages, dans leurs émotions, leurs ressentis. Mais c'est pour ça que certaines personnes me disent c'est très visuel, quoi.
Voilà. Alors, le décor, la toile de fond, elle est très belge. Hein, c'est entre banlieue industrielle Carolo et puis Bruxelles. Il y a des références au drame du bois du casier, ce genre de choses. Il faut être belge pour rentrer et comprendre ce livre.
Ah non, je crois pas. Je crois vraiment que... Ce côté, le décalage social que vit cette jeune fille d'origine ouvrière, Il doit être vécu par de nombreux étudiants. Je crois qu'il y a de plus. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a de plus en plus d'étudiants, enfants d'ouvriers, qui font des études supérieures. De là à dire qu'ils vont trouver leur place, c'est un combat. C'est marrant, il y a quelques jours, non, ça fait quelques semaines maintenant, que j'ai lu des chiffres sur combien d'enfants d'ouvriers réussissent à devenir des cadres supérieurs. C'était moins que ce que je pensais, quoi. On n'est pas encore dans... C'est 9%. 9% seulement des enfants d'ouvriers arrivent à devenir avocats, médecins. Et je trouve que c'est quand même effrayant. Moi, c'est pas très équitable, quoi.
Il y a encore une espèce de plafond de verre.
Mais oui.
Alors, beaucoup de références aussi à la chanson, à la littérature. Dans votre roman, Gabriel Bouril, La fille de Nino, ça va de Dick Rivers à Musset. Pourquoi ces références
Là, en l'occurrence, Musset, pour le coup, c'est...
Oui, c'est juste... la grande scène de oui, « On ne voilà. badine pas avec l'amour ».
Voilà, c'est une grande scène. Mais en plus, que j'ai... c'est vraiment... Là, je décris un truc que j'ai vécu, quoi. C'est comme ça que le mec m'a approché. Je crois que même qu'il avait... Je ne l'ai pas dit ça, mais ce type avait proposé à la prof de théâtre... Tu vous imaginez, elle a 17 ans à l'époque, la fille Angela. Et il a dû... Cet homme, Michel, a dû... proposer à la prof de cette séquence-là, cette scène-là, parce qu'il savait que c'était une façon de la draguer, quoi. Mais pourquoi la culture ? Parce que, quand même, depuis toujours, je crois, toujours en n'exagérant rien, je crois que c'est quand elle est arrivée à Bruxelles qu'elle a commencé à lire Borges, Duras, Graham Greene, enfin, voilà. Donc, c'est normal, les livres... qui n'existait pas, évidemment, dans sa famille. Hein. Angela, il n'y avait pas de livre chez elle. Elle lit des bouquins quand elle arrive à Bruxelles. Donc, ça fait partie de son univers, hein, les livres.
Mais vous parliez tout à l'heure, Gabriel Bouril, de transclasse. Enfin, vous l'avez évoqué. Est-ce que, par la culture, on peut aussi, selon vous, s'élever dépasser les barrières, peut-être psychologiques, qui nous empêchent d'aller plus loin ?
Ah oui, c'est clair. C'est clair. Si je parle de moi là maintenant, je ne parle plus au nom d'Angela, mais moi, je pense vraiment que j'ai même appris à ressentir la nature en lisant Virginia Woolf. Ce qui n'est pas un auteur facile d'ailleurs, mais j'avais un ami, François Rivière, qui m'avait comme ça... Je crois aussi que les liens avec les gens peuvent vous aider aussi à grandir. Hein. Je n'en parle pas beaucoup dans le roman de ça, mais... les livres, certainement. On y découvre beaucoup de choses, oui.
Vous venez de citer François Rivière, ça a été un de vos collaborateurs.
Oui, tout à fait. François Rivière, ça remonte à loin. Donc, on était très amis et il commençait à faire de la bande dessinée. Et avec Flock, hein, ils ont fait... À l'époque, il n'avait même pas encore publié Seven Oaks, Rendez-vous à Seven Oaks. Et moi, je me dis, tiens, la BD, quelle bonne idée. Rien que de voir qu'on pouvait devenir auteur de BD, vous voyez. Finalement, vous n'y pensez pas. Si vous lisez Tintin, c'est vrai que je lisais Tintin quand j'étais petite. Hein,
vous ne dites pas, je vais devenir Hergé.
C'est ça, voilà, on n'ose pas.
Ça paraît inaccessible.
Voilà. Et donc, quand François, à un moment donné, j'ai trouvé une chouette anecdote dans un vieux bouquin des années 30 sur les services secrets anglais qui avaient trouvé le code secret des Allemands, du Kaiser. Mon histoire de Sackville se passe en 14-18, hein, c'est important. Et j'ai donc proposé à François de l'écrire avec moi, et nous avons fait quand même 23 albums aux éditions du Lombard, une histoire d'espionnage, avec un dessinateur très doué pour représenter l'époque. Donc, par exemple, le premier, ça se passait à Bruxelles, et ça s'appelait le Code Zimmermann. Et vraiment, il était d'une précision. Tous les pavés de la route sont faits. Et ça a participé au succès, je pense, de la série. Parce que, il recomposait le Bruxelles de 14-18. Quoi.
Vous avez eu, Gabriel Bouril, beaucoup de vie professionnelle. Parce que là, on parle d'il y a quelques années autour de BD.
C'était ma première vie. On peut dire que la bande dessinée, c'était ma première vie. En parallèle avec la bande dessinée, je gagnais surtout ma vie comme journaliste freelance. Je travaillais au Soir Illustré. C'est devenu maintenant le Soir Mag.
Hein. Le Soir Mag, oui.
Le Soir Illustré. Je faisais des articles société, des articles psy parfois, souvent, j'aimais bien. Ou bien, alors on m'a désignée comme chroniqueuse nature. Je ne connaissais pas très très bien la nature et les animaux, mais voilà. Donc ça, c'était ma première vie. Et la deuxième vie, c'est celle dont j'ai parlé tout à l'heure, que j'ai commencé à 40 ans. Hein. Non, même pas tout à fait quand même. À 38 ans, je suis allée vers l'audiovisuel, on va dire. Avant de... Il y a 4 ans, plus ou moins, oui. J'ai décidé d'arrêter les scénarios. Pourquoi ? Mais parce que, vous l'aurez peut-être remarqué, moi je faisais beaucoup de films unitaires, on appelait ça des unitaires, donc c'était des 90 minutes qui passaient sur France 2 à 20h40. J'ai vraiment eu une très belle carrière de scénario, mais depuis je dirais même une dizaine d'années, c'est les séries qui marchent. Or, pour écrire une série, vous ne pouvez pas faire ça seul. C'est même imposé par les producteurs. Vous êtes dans un duo, un trio, un quatuor. Alors, c'est des groupes. Et honnêtement, je ne trouve pas ça évident. En tout cas, pour moi, qui ai toujours travaillé seul à l'écriture, j'avais décidé, je me suis dit, bon, je vais essayer autre chose. Et voilà. Il est toujours temps, si je m'adresse à des jeunes, de leur dire que vous pouvez avoir plusieurs vies. Et j'ai commencé ma troisième vie, donc il y a 4 ans.
Avec l'écriture du roman « La fille voilà. de Ninou ». Dans ce roman, hein, c'était une de mes premières questions, quel est le fil rouge ? Il y en a beaucoup, oui. Bien sûr, donc on essaie de tirer de différents côtés. Il y a la maladie de la mère, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Gabrielle oui. Boril, elle a la sclérose en plaques, donc une maladie dégénérescente assez grave, et on voit sa situation pendant le roman. Il y a l'accident de vie du père en usine, il y a l'hôpital, tout ça c'est aussi des sujets au cœur du roman. L'hôpital, par exemple, et la question du care, du soin.
Ben, j'avoue que je n'ai pas insisté sur ça. Je vais vous dire honnêtement, c'est une démarche dramaturgique, c'est-à-dire que le roman se passe en 1980, en janvier 1980, pendant les 10 jours durant lesquels dure le coma du père. Donc c'est-à-dire, je ne vais pas vous donner la réponse. Est-ce que cet homme va survivre ou pas ? Est-ce qu'il va se réveiller ou pas ? C'est juste, en scénario, nous appellerions ça un tendeur dramaturgique. Mais je n'ai pas à développer, on ne parle pas trop de... Je crois que le vrai fil rouge, c'est aussi la galerie des personnages qui encadrent Angela. Il y a sa tante, sa marraine, son oncle, des gens qu'Angela a connus enfant et qui sont restés justement du côté de Charleroi, qui ne s'en sont pas tous sortis très très bien d'ailleurs. Elle revoit une amie d'enfance, c'était sa voisine, qui elle est devenue femme de ménage. Hein. Je crois quand même qu'il faut le dire, du coin où j'étais, ça s'appelait le Rocchio à Montigny-sur-Sambre. Honnêtement, il n'y a pas aucun des enfants de ma classe, et même du lycée, hein, de l'Athénée royale de Charleroi. Ça s'appelait le lycée royal de Charleroi. Ça a aussi changé de nom. Tout change. Hein. Et ben, il n'y en a pas qui ont fait l'UNIF. C'est quand même fou, quoi. Pourquoi ? Je ne comprends pas. Enfin, on n'est pas obligé de faire l'UNIF, hein. C'est pas ça. Mais quand même, c'est un grand moment de découverte culturelle. Pas seulement, on ne va pas seulement en cours, on rencontre d'autres gens. Pourquoi les jeunes n'essayent pas ?
Oui, de la difficulté de s'extirper d'un milieu et de la reproduction sociale. Merci beaucoup, Gabrielle Boril. Je rappelle le titre de votre roman, premier roman, mais je pense savoir qu'il y en a d'autres dans les tiroirs qui demandent qu'à être édité. La fille de Nido, publié aux éditions Weyrich dans la collection La plume du coq. Voilà. Ah oui, juste peut-être un mot là-dessus, La plume du coq et l'édition Weyrich.
Olivier Weyrich est un éditeur très très dynamique qui est donc basé dans les Ardennes. Et c'est lui qui a choisi cette couverture qui est très lumineuse, qui parle des mines, mais en même temps, il y a cette espèce de soleil là derrière. Et je pense que ça rejoint bien le parcours du livre, c'est-à-dire qu'on part de quelque chose de sombre, mais je crois que c'est un roman qui est porteur de résilience. Hein. Enfin bon, je ne vais pas vous donner la fin, mais c'est quand même un roman quelque part positif. Et donc Olivier Wehrich a publié, là maintenant, il a fêté les 100 ans de cette collection, pardon, pas les 100 ans, les 100 livres, les 100 livres de sa collection Plume du Coq. Voilà. Bravo à lui, il est très dynamique, cet homme-là.
Voilà, et donc il y a des polars en perspective, mais ça, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Merci Gabriel Bory.
Merci.
Voilà, au cours de cette émission, vous avez eu l'occasion d'entendre Gabrielle Boril, qui est donc romancière. Elle a publié récemment La fille de Nino aux éditions Wehrich dans la collection Plume du Coq. Elle a été scénariste et professeure de scénario à l'ULB et à l'IAD. Elle a aussi été auteure de BD, de séries, télé et de cinéma. Elle a fait des études de droit et de journalisme à l'ULB et donc je vous rappelle qu'elle publie son premier roman. Il y en aura d'autres qui vont être publiés prochainement, sans doute aux éditions Wehrich comme celui-ci. Le titre « La fille de Nino » dans la collection Plume du Coq. C'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Au revoir.